OK, on va s'en aller à Trois-Rivières pour avoir les toutes dernières informations du procès, donc, de la belle-mère de la fillette de Granby, Annie Guillemette, qui couvre le procès pour nous cette semaine. Bonjour, Annie.
Bonjour, Bernard.
Alors, le contre-interrogatoire de la belle-mère qui vient de se terminer.
Oui, tout juste dans les dernières minutes, l'accusé, on le rappelle, là, témoignait pour sa défense hier. Aujourd'hui, elle répondait aux questions du procureur de la poursuite, Maître Claude Robitaille, qui avait beaucoup de questions sur elle. Et on a passé beaucoup de temps ce matin, Bernard, à parler des effets des crises de l'enfant sur l'accusé. Comment ça se passait dans la maison? Comment il trouvait ça difficile? Elle a dit que à peu près au moment où la petite est arrivée dans son foyer, lorsqu'elle l'a accueillie, eh bien, les crises ont commencé et elle s'est retrouvée submergée par les tâches, par la gestion de cet enfant-là, qu'on se rappelle hier, elle décrivait comme étant incontrôlable. Elle avait ses soupapes, la femme de 38 ans fait partie des alcooliques anonymes, et elle multipliait les réunions de ce groupe-là, parce que pour elle, là, c'était son temps à elle, son moment où elle pouvait se reposer un peu de tous ces tracas de la maison. Mm-hmm. L'avocat lui a fait dire que c'était une femme quand même émotive, qu'elle avait souvent des réactions spontanées et qu'elle pleurait quand même assez souvent. Donc, on est revenu beaucoup là-dessus et on est revenu aussi sur les méthodes qui étaient employées pour toujours, entre guillemets, gérer la petite. Est-ce que la porte était barrée? Oui, quand, comment et pourquoi? L'accusé a fini par avouer que pendant la nuit, il y avait une barrière, que la petite ne pouvait pas sortir de sa chambre, qu'elle était enfermée là. La raison, bien, c'était pour sa santé, parce que elle se gavait la nuit et ça la rendait malade. Elle avait des diarrhées. Elle était pas bien après ça. Donc, on l'empêchait de se gaver la nuit, de voler de la nourriture. Et c'est pour ça qu'elle était dans sa chambre. Pendant la journée, elle y passait beaucoup d'heures aussi. Mais selon l'accusé, ben c'était souvent son choix. Elle ne voulait pas venir avec les autres membres de la famille. On en est vite venu, Bernard, bien sûr, à la fameuse nuit avant le décès de la petite fille de 7 ans. Là, l'accusée a rappelé qu'elle était contre le fait d'enrubanner l'enfant pour la maîtriser. Elle avait dit hier que ce n'était pas son idée. On est revenu là-dessus aujourd'hui. L'avocat lui a demandé si vous étiez contre ce fait-là.
Oui.
Vous avez passé la nuit à écouter un film parce que la petite faisait du bruit dans sa chambre. Pourquoi vous n'avez pas demandé de l'aide? Vous avez eu le temps. Elle a dit « Je pensais pas qu'elle allait mourir », une phrase qu'elle avait déjà dite hier. L'avocat lui a demandé « Mais pourquoi vous n'êtes pas juste allé la détacher ?» Elle dit « Je sais, j'y pense tout le temps ». Donc, la culpabilité là a vraiment refait surface ce matin, son sentiment de peut-être pas avoir posé les bons gestes. Elle a répété souvent, cette dame-là aujourd'hui, que si elle pouvait reculer le temps, elle changerait bien sûr comment elle a agi. Elle a quand même confirmé ce matin qu'elle avait ajouté du ruban autour de la petite. Elle a fait une dizaine de tours autour de son torse parce qu'elle bougeait au petit matin et qu'elle voulait toujours la contrôler. Elle a dit « J'avais peur qu'il y ait des meubles qui tombent sur elle. J'ai aussi ajouté du ruban de la tête aux pieds. » Et là, on a eu un détail, mais vraiment important, Bernard. Elle a dit concernant le fameux ruban adhésif dans son visage, à côté du visage, sur son visage. C'était pas clair. Elle a dit « Elle avait du ruban devant le visage, mais pas sur le visage. » Comme elle a mimé la chose, la petite avait le menton appuyé sur elle et le ruban passait de ses cheveux à son thorax. Et donc, il y avait un espace entre les deux. Mais là, le visage est couvert maintenant. Là. Hier, il ne l'était pas. Aujourd'hui, il l'est. L'avocat de la poursuite lui a aussi fait dire qu'elle était fâchée parce que la petite n'arrêtait pas ses crises. Et il lui a demandé « Est-ce que vous étiez fâchée? » Elle a dit « Oui, je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. » Ça a pris une ampleur et elle n'a pas terminé sa phrase. Le contre-interrogatoire s'est terminé comme ça. Mm. Elle a bien sûr résumé les moments où on a découvert la petite, on a fait le 911, les tentatives. Là-dessus, la version d'hier et d'aujourd'hui coïncide quand même assez bien. Et encore une fois, comme elle l'avait commencé, Bernard, l'accusé a remercié les 14 membres du jury de l'avoir écouté. Elle a dit « Je suis désolée, je l'aimais, je l'aime encore, elle me manque. » Elle a dit « Je m'excuse. » Et elle les a une fois de plus remerciés. Donc, c'est sur cette note-là que le contre-interrogatoire s'est terminé aujourd'hui.
Et là, ça fait relâche pour le reste de la journée, c'est bien ça?
Oui, relâche. Demain, on va débuter avec d'autres témoins, deux autres témoins, toujours du côté de la défense. Ce seront des scientifiques cette fois-ci, une pathologiste et un ingénieur qui vont venir expliquer là, un peu les circonstances et leur vision des choses de ce qui s'est passé le 29 avril 2019 à Granby.
Annie Guillemette, journaliste COGECO à Trois-Rivières. Merci beaucoup, Annie.
Au revoir.
On s'en va à la pause. Au retour, on est en mode positif, en mode solution dans le secteur de la santé. Parce qu'on les cherche, les solutions. Hein? On veut que ça fonctionne mieux. On veut se faire soigner quand on est malade. On veut que nos infirmières, notamment, aient une vie plus heureuse, qu'elles aient le goût de rester infirmières pour pouvoir nous soigner, justement, quand on est malade. Et là, à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, ils ont essayé quelque chose et ça a fonctionné. On vous en parle après la pause.